Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous. Bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychothérapeute et formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il vous propose, à travers des parcours qui sont adaptés aux situations diverses de chacun, et cela au sein de l'Institut de formation psychrétien, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité avec les autres, et cela dans la perspective aussi d'une disponibilité plus grande à l'accueil de l'action de Dieu dans notre vie. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion et de partage ce soir, un sujet délicat, l'enfant adopté et son environnement.
Voilà, l'enfant adopté, oui. Alors pas tout seul, parce qu'il est né quelque part, il vit oui. avec des oui. parents adoptifs. Oui. Donc on va parler des deux, et de l'enfant et de son environnement.
Oui, oui, c'est cela.
Alors, adopté, ça veut dire qu'il y a eu une perte, peut-être un abandon, en tout cas une séparation.
Une entrée dans l'existence, disons, difficile et douloureuse souvent.
Voilà, difficile et qui constitue un traumatisme. Je crois on le sait, hein,
bah oui,
tout le monde pense que c'est évidemment un traumatisme.
Un arrachement pour le bébé, hein, si, quand il est adopté petit et même à tout âge.
Voilà, donc on regardera ça. On va parler aussi des parents adoptifs, de leur désir d'enfant, de leur parcours jusqu'à l'adoption. Et puis
c'est souvent un parcours parents, difficile aussi. Hein.
Alors, qui est souvent un parcours difficile, d'abord dans l'attente d'un enfant.
Oui.
Et puis après, le parcours de l'adoption en lui-même est souvent aussi très difficile. Donc, c'est tout un parcours qui est difficile. On regardera aussi toute l'importance de l'origine de l'enfant, mais au sens large. Alors, l'origine de ses parents biologiques, mais aussi géographique, culturelle, religieuse.
Oui.
Tout ce qui fait, en fait, la construction de l'identité de l'enfant. On se construit tous aussi dans nos racines. Culturelle et religieuse, donc on parlera un peu de ça. Voilà, et puis des différentes périodes de l'enfant adopté, l'enfance, l'adolescence, on verra ce qui se dira sur l'adolescence, ça peut s'étendre aussi à la vie adulte, donc on regardera un peu
ces différentes périodes.
Alors, en même temps, on va pas donner des recettes, parce que chaque enfant est unique. Chaque famille est unique. Donc, c'est plus essayer de réfléchir un peu sur l'ensemble, les possibilités et les risques. Voilà, pour donner des pistes, mais sans donner des recettes, parce qu'à chaque fois, ça sera un cas unique.
Voilà, donc on pose un peu le préalable. Hein.
Voilà.
Alors, oui.
Oui. Je crois que ce qu'il faut dire, peut-être le préalable, c'est que l'adoption, c'est pas facile.
Oui.
On le dit pas assez. Enfin, maintenant, ça commence à se dire un peu plus. Mais je crois que c'est important de prévenir les enfants. Bien sûr, il y a leur désir d'enfant. Et
pour les parents, oui, bien
sûr. Pour les parents, et ils le réalisent en adoptant. Voilà, mais il y a aussi beaucoup
la réalité aussi.
Il y a aussi la réalité et beaucoup de difficultés, pour les parents et aussi pour l'enfant.
Parce que bien sûr, il y a un désir, il y a un rêve, il y a bon, mais après, quand on entre dans la réalité, il y a cette rencontre.
Et il y a le traumatisme de l'abandon qui reste, qui laisse des traces. Puis après, toutes les difficultés, de la croissance, ça arrive aussi chez des enfants non adoptés. Hein,
c'est ça, bien sûr, le syndrome de l'abandon.
Voilà, mais simplement, là, il y a la question des origines qui se pose en plus. Un enfant biologique, ben, il sait d'où il vient, il connaît sa famille. Voilà, là, il y a une question qui porte sur l'origine qui est cruciale et qui se pose en plus.
Alors, vous disiez donc que ça constitue un traumatisme important pour l'enfant. Et ça, voilà, on perçoit, hein.
Voilà.
Mais il faut le rappeler.
Voilà, c'est important de le rappeler. Alors, traumatisme d'abandon, c'est pas toujours un abandon, hein.
Non.
Parfois, y a un cas de force majeure. Le décès des parents, ils n'abandonnent pas l'enfant.
Ben non.
Mais l'enfant, lui, le vit comme un abandon.
C'est son ressenti.
C'est son ressenti. Hein. Quand on parle d'abandon, on parle du ressenti de l'enfant. On ne parle pas des parents. Voilà. S'ils ont laissé leur enfant, s'ils se sont séparés, c'est qu'ils étaient dans des situations où ils ne pouvaient pas assumer, en fait. Hein. Et parfois, comme dans le cas d'un décès,
il faut bien que l'enfant trouve un autre environnement, et
oui.
Voilà, une autre famille.
Voilà. Mmh. Et donc, mais quoi qu'il en soit, ça reste un traumatisme, et pour l'enfant, c'est vécu comme un abandon.
Mmh. Alors, ça va varier aussi peut-être avec l'âge de
Alors, oui, ça,
l'adoption.
Alors, c'est toujours un traumatisme. Mais on pourrait dire que l'impact va varier avec l'âge de l'adoption, l'âge de l'abandon d'abord.
Oui, l'âge de l'abandon. Parce que l'enfant peut être pas tout de suite adopté.
Voilà, il y a d'abord l'âge de l'abandon, il y a les circonstances, est-ce qu'il va être placé, est-ce qu'il va être adopté tout de suite. Les personnes de substitution qu'il va pouvoir trouver pour recréer un attachement, recréer du lien, l'environnement, enfin tout ce qu'il sera amené à vivre entre la séparation. Alors on va beaucoup parler de la mère parce que pour l'enfant c'est important, surtout qu'en général les séparations sont plutôt souvent sur des jeunes enfants. Voilà, par exemple, c'est pas pareil d'être adopté à la naissance que d'être accueilli dans un orphelinat et là, même dans quelles conditions d'orphelinat en fonction des pays. Ou encore, de se retrouver à vivre dans la rue avec des bandes, d'être pris en charge par des bandes et puis après d'être adopté. Donc, tout ça, bien sûr, ça va intervenir.
Sur la croissance
du petit, sur comment il va vivre non seulement l'abandon, mais tous les facteurs qui vont suivre après.
Alors vous disiez que c'est avec la mère surtout, hein, la séparation, le traumatisme se passe surtout avec la mère.
Bah oui, parce que l'enfant, il est d'abord relié à la mère, alors d'abord in utero, par le cordon. Et puis ensuite par la mère qui le nourrit, les soins, elle le porte, elle le soigne, elle le caresse. Donc tous ces premiers liens sont avec la mère et c'est un lien qui est très fort et très important en tout cas pour le développement de l'enfant. En tout cas, dans les premiers temps, on pourrait dire la mère contient le père, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour l'enfant, tout petit, hein, parle du bébé, ce qui est important pour lui, c'est la fonction maternelle et la mère contient le père.
Ah, oui.
Ce n'est qu'après, avec l'arrivée de l'Œdipe, que le père devient une figure à part.
D'accord,
mais
ouais.
Au départ,
ça ne fait qu'un pour lui,
ça
pour le bébé.
Ça ne fait qu'un, oui.
Et le fait d'entendre la voix du père, quand la maman, ou de parler, que le père parle l'enfant dans le ventre de sa mère, est-ce que ça joue?
Oui, ça joue, mais pour l'enfant, le père existe, mais il est intégré dans la mère, en fait. Hein. Les parents sont mêlés, en quelque sorte. Il n'y a pas encore les deux figures parentales. Et il ne fait pas le lien que son père est le mari de la mère.
Oui, d'accord. Ah,
ça, ça arrive plus tard.
Oui, une sorte de fusion. Là.
Voilà.
Alors, donc, ça va être... donc, cette difficulté... on sait bien que pour beaucoup de psychologues, d'ailleurs, ont étudié la séparation mère-enfant.
Oui,
parce que la séparation va avoir lieu quand même.
Alors,
tout enfant.
Ils ont étudié la séparation mère-enfant et les facteurs environnement de l'environnement et ils ont démontré en quelque sorte que le facteur le plus important qui joue sur l'état psychologique de l'enfant, c'est d'abord et avant tout la séparation avec sa mère.
D'accord. Hein. Oui. Ça se comprend quelque part. Oui.
Que l'enfant ait été placé, par exemple, dans des séparations pour hospitalisation ou pour des soins.
Oui.
Que l'enfant se retrouve seul. Maintenant, on ne fait plus beaucoup. Maintenant, les parents peuvent dormir avec, oui. Avec les enfants quand ils sont hospitalisés ou qu'il était placé ou dans un orphelinat ou autre. Et puis, surtout, ils ont démontré que l'enfant passe par trois phases.
Oui.
Spécifique.
Dans la séparation avec la mère, c'est ça?
Dans la séparation avec la mère.
Oui.
Une première phase qui est une phase de protestation, donc où il va exprimer sa détresse. Alors ça, on le voit par exemple aux rentrées scolaires.
Ah oui.
Pour les petits en maternelle. Oui. Ou même, quand l'enfant ne trouve plus sa mère, par exemple, un petit enfant qui ne trouve plus sa mère.
Il pleure, comme dit Guillaume.
Voilà. Il va d'abord pleurer, oui. Crier, exprimer toute sa détresse. Il va chercher à la retrouver. Il va se tourner vers tout ce qui se présente pour vérifier si c'est sa mère, si ça peut être sa mère. Et donc, c'est toute une phase où il va protester tout en espérant le retour de la mère. Et puis, il va rejeter... les autres personnes, par exemple les parents, le père ou les frères et sœurs, il va les rejeter parce que ce qui est important pour lui à ce moment-là, c'est de retrouver sa mère. Ou alors il va s'y cramponner, il peut y avoir les deux. Soit il repousse les autres, soit il s'y cramponne
comme une sécurité.
En
attendant de retrouver la mère quand même.
Voilà. Ça, c'était
la première phase.
La première phase. La deuxième phase, c'est une phase dépressive, donc une dépression, où l'enfant va perdre tout espoir. Donc, si la première phase dure et qu'il ne retrouve pas sa mère, il va entrer en dépression, il va perdre tout espoir et son activité va diminuer, il va moins bouger, il va se replier sur lui-même. Il n'aura plus d'exigences comme dans la protestation par rapport à l'environnement. C'est vraiment une phase et de repli et de dépression.
Et la troisième phase, alors, ça va être ?
Ça va être le détachement.
Oui.
Où, finalement, il ne va plus rejeter les autres. Il va accepter les soins, il va accepter la nourriture qu'on lui donne. Et du coup, il peut paraître plus sociable comme ça dans les apparences.
Mmh.
Mais si la mère revient, il va faire preuve de détachement. Il va l'ignorer, il va tourner la tête.
Et ça veut dire quoi ? Qu'il proteste ?
Non, il ne ressemble plus la reconnaître, en fait.
Ah oui, il ne semble plus la reconnaître.
Hein. Mmh. Donc c'est vraiment, il la cherche, il déprime parce qu'il la perd.
Oui.
Et puis, il ne la reconnaît plus.
Il s'attache par ailleurs à d'autres figures.
Voilà. Il s'attache pas beaucoup.
Non.
Il peut s'attacher à d'autres figures, mais c'est surtout qu'il accepte. Il va accepter la nourriture, il va accepter les soins.
Oui.
Mais en gardant quand même un certain détachement.
D'accord.
Après, il faudra un peu de temps pour qu'il se réattache.
D'accord.
Et puis, s'il est placé, par exemple, dans un orphelinat ou autre, s'il perd d'autres figures qui s'occupent de lui, donc s'il s'est réattaché à une autre personne et qu'elle s'en va, par exemple...
Ça fait un deuxième traumatisme.
Il va revivre la première perte. Donc, c'est le traumatisme qui va se reproduire. Et si ça se reproduit plusieurs fois, ben, il va s'attacher de moins en moins aux personnes. Il finira par ne plus ressentir d'émotions et il ne s'intéressera plus du tout aux personnes. Il va s'intéresser aux objets, à la nourriture, mais plus aux personnes. Parce que c'est trop violent pour lui à chaque fois de perdre à répétition.
Oui, je comprends, bien sûr. Donc voilà, un peu le schéma de l'enfant qui se sent...
Séparé de sa mère.
Qu'il soit par rapport à l'adoption ou un enfant...
Ou pas d'ailleurs. On voit par exemple les parents qui confient des petits-enfants parce qu'ils s'en vont. Voilà, l'enfant va pleurer au moment du départ. Oui. Ça va continuer un peu. Ça dépend s'il connaît bien ou pas les personnes qui s'occupent de lui. Et puis, si la mère revient, il va l'ignorer. Mm-hmm. Un certain temps, alors, comme c'est sa mère, ça va se renouer. Mais voilà, là, on n'est pas dans le traumatisme. Mm-hmm. Mais on est dans le même processus qui pourrait être un traumatisme si ça devenait une vraie séparation.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, ce soir, nous parlons de l'enfant adopté et de son environnement. Et bien sûr, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Nous écoutons Yves Duteil, cette magnifique chanson « Prendre un enfant par la main ».
Radio Notre-Dame.
Prendre un enfant. l'enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin. Prendre un enfant pour le sien.
Cette chanson pleine de tendresse d'Yves Duteil qui, ben voilà, qui a une, quand même une certaine expérience, je pense, parce que c'est prendre un, voilà, c'est éduquer un enfant, mais quand il y a la mère d'un premier mariage, par exemple, c'est différent.
C'est différent de l'adoption parce que l'enfant n'a pas perdu sa mère.
Oui, c'est ça. Et c'est la mère qui...
Alors, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, il peut y avoir des problèmes, mais... C'est pas le traumatisme de la perte de la mère.
Oui, qu'on vient d'évoquer vraiment là dans cette première partie. Alors donc, oui, vous disiez que donc évidemment que cette séparation avec sa mère biologique, l'enfant va la vivre comme un abandon et comme un traumatisme. Il va y avoir une blessure d'abandon.
Oui. Qui peut... C'est vraiment un traumatisme. En fait, on a vu les trois phases. La réalité, c'est un peu plus compliqué parce qu'après, l'enfant va s'adapter au moment de l'adoption. Donc, il peut s'adapter.
Oui, oui.
Il peut se suradapter, c'est-à-dire répondre un peu à l'attente des parents adoptifs.
Pour se faire aimer, non ?
Pour se faire aimer, oui, et pour pas être abandonné à nouveau.
Oui.
Il peut présenter parfois des troubles psychologiques qui peuvent être décelés assez tôt ou qui peuvent se révéler à l'adolescence. Mmh. Donc on voit, il peut y avoir tous les cas, ça peut se passer bien et puis ça peut se passer parfois très difficilement.
Oui.
Voilà, et tout ça va dépendre à la fois des circonstances de la séparation avec la mère et des éventuels traumatismes ultérieurs qui pourra y avoir ou qui pourront réaviver la première séparation.
Qui rajoute,
voilà, par exemple, un enfant abandonné qui serait placé et maltraité, ça va rajouter d'autres traumatismes à sa première blessure.
Bien sûr. Hein,
donc, voilà, il y a tout ça qui va intervenir sur comment l'enfant va se développer.
Et oui.
Ce qui fait qu'il n'y a pas de règles. Le tout, c'est de favoriser au mieux l'adaptation et une adaptation qui respecte l'enfant.
Hein. Ça... Alors, on va voir comment, tout à l'heure, on peut respecter au mieux cette adaptation.
Au mieux cet enfant dans le cas de l'adoption. C'est vrai pour tous les enfants, d'ailleurs.
Oui, oui.
C'est un peu une banalité de dire ça, mais là, c'est un peu plus compliqué à cause de la perte qu'il y a eu.
Mm-hmm. Alors, justement, l'enfant va se poser des questions sur l'abandon, ce qu'il va vivre comme un abandon, en tout cas.
Oui.
Cette blessure, va...
Alors, il va se poser un certain nombre de questions. Toute la première, ça va être la question de ses origines. Et finalement, la blessure d'abandon, on a dit, c'est un traumatisme. Tout traumatisme laisse une trace dans le psychisme. Mais on pourrait dire que c'est d'abord une blessure narcissique.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que pour l'enfant, s'il a abandonné, c'est parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il était mauvais, ou parce qu'il n'était pas comme il aurait fallu qu'il soit.
Ah oui.
Hein? un enfant, il se dit pas, alors surtout tout petit, il se dit pas, ben mes parents pouvaient pas, ils étaient dans une situation, je sais pas, qui empêchait de m'élever. Il va pas se dire ça, il va se dire s'ils veulent
pas
de moi,
c'est de ma faute, c'est que j'étais pas bien, oui.
Voilà.
Ils n'ont pas voulu de moi, quoi. Ils veulent l'interpréter comme ça.
Ils n'ont pas voulu de moi, mais à cause de moi.
À cause de moi.
Et parce que j'étais pas assez bien.
Donc une culpabilité, là.
Alors, une culpabilité, mais surtout une blessure au niveau de l'image de soi, de ce qu'il est, de son identité. Voilà, et c'est toutes ces questions. Alors après, il va imaginer ce qu'il peut. Je suis moche, je suis un garçon au lieu d'une fille, je suis une fille au lieu d'un garçon, je suis...
L'imaginaire va jouer aussi.
L'imaginaire va jouer. Hein. Mais c'est vraiment une blessure au niveau de l'image de soi, mais de son image profonde.
Identité, identitaire.
Au niveau de son image identitaire et de son narcissisme.
Et qui aura des conséquences, cette blessure narcissique, plus
oui,
tard,
qui aura des conséquences sur l'image qu'il aura de lui-même. Et puis, en fonction de comment il va réagir, comment va, les parents adoptifs vont pouvoir l'aider aussi à corriger cette image, l'aider à comprendre que finalement, ses parents, ils n'ont pas pu faire autrement. C'est pas parce que c'est pas de sa faute à lui, mais ils étaient dans une situation où ils pouvaient pas faire autrement. Donc, c'est important que les parents adoptifs ne jugent pas les parents biologiques, qu'ils ne les critiquent pas devant l'enfant, qui leur laisse une place, en quelque sorte.
C'est ça,
Et dans leur esprit à eux, une place respectueuse. Oui. Hein, et surtout dans l'esprit de l'enfant, que l'enfant puisse laisser une place à ses parents et arriver à comprendre que c'est pas de sa faute, mais que c'est les circonstances de la vie.
En laissant cette place aux parents biologiques, l'enfant va pouvoir... avoir un espace pour se reconstruire quelque part, non ?
Oui, ça va l'aider à se reconstruire, ça va l'aider à avoir un lien avec son origine. Si on dénigre ou si on supprime les parents biologiques, c'est son origine qu'il perd avec. Ouais. Non seulement il perd ses parents, mais il perd son origine.
Mais même quand on ne connaît pas, si les parents adoptifs ne connaissent pas les parents biologiques...
En tout cas, faut laisser une place, même si, alors quand on ne connaît pas ou qu'on ne connaît rien, ça va créer un manque. Hein. Il y aura un blanc dans l'histoire de l'enfant, on respecte les parents, ils existent, ils ont existé. Même si on ne sait rien d'eux, ils ont existé. Alors, ils sont peut-être décédés, ils sont peut-être quelque part. Voilà, mais ils ont une réalité.
Oui. Ouais. Donc, c'est important de la respecter pour l'enfance.
Oui. Ouais.
Alors, donc, l'adoption, donc, on disait tout à l'heure, c'est par rapport aux parents, déjà. C'est parce que l'enfant ne demande rien. Lui, il subit quelque part au départ.
L'enfant adopté, il subit, il n'a rien demandé.
Oui.
Il n'a pas choisi. Il ne choisit pas ses parents non plus. Il a adopté et il n'a rien demandé et il subit en quelque sorte la situation. Même si ça peut être une situation bénéfique, hein, c'est pas la question, mais il ne choisit pas. Finalement, l'adoption, c'est d'abord le désir des parents adoptifs.
D'avoir
un enfant. Ce qui est important, c'est de réaliser que c'est un désir qui est quand même souvent vécu dans un climat de souffrance. Hein.
De la part des parents, oui.
De la part des parents adoptifs. D'abord, il y a la difficulté à avoir un enfant. Alors, ils ont ressenti ce manque. Souvent, ils se sont sentis isolés ou exclus, alors, de leur famille, de la société, de leurs amis. Quand on accompagne les personnes, les couples qui ont des difficultés à avoir un enfant, ils disent, quand on leur pose des questions sur la grossesse, ils aiment pas parce que ils y arrivent pas, donc ils ont pas envie d'en parler. Puis ça les fait souffrir, mais quand on arrête de leur poser des questions, ça les fait aussi souffrir parce qu'ils se disent, tiens, ils osent plus nous en parler.
Donc toujours, ça fait souffrir de toute façon, oui.
Souvent, les réunions familiales, s'il y a les frères et sœurs qui ont des enfants ou s'il y a d'autres personnes qui ont des enfants, c'est un moment de souffrance. Ben oui. Noël, pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, Noël, c'est un moment de souffrance, souvent. Et puis, quand ils ont des amis qui ont un enfant ou une amie qui a une grossesse, ils vont ressentir un sentiment d'injustice, de révolte, parfois même être jaloux. Et ils vont culpabiliser d'être jaloux de ceux qui ont des enfants. Voilà, donc toute cette période, c'est quand même souvent vécu dans une souffrance, et une souffrance qui peut être plus ou moins importante, ça dépend des couples. Et puis après, il y a tout le chemin de l'adoption qui ressemble souvent, pas toujours, mais souvent à un parcours du combattant. Alors d'abord, ils vont se sentir évalués, jugés. Ils passent devant des psychologues, des travailleurs sociaux qui vont évaluer en quelque sorte le bien fondé de leur désir d'adoption, leur capacité à adopter. Donc ils vont se sentir jugés. Après, les choix d'enfants, alors ça varie en fonction des pays, mais parfois ils choisissent sur fiche. Enfin, ils font une présélection sur fiche. Alors, ils ont l'impression de choisir un objet, quoi, comme dans un catalogue. C'est difficile. Et puis, quand ils vont dans les orphelinats, ils voient des enfants en grande souffrance. C'est aussi très difficile. Ce qui fait que c'est un chemin qui est quand même très éprouvant aussi, si quand ça se réalise, y a la joie d'adopter l'enfant, mais tout le parcours est quand même souvent assez éprouvant. Ce qui fait que l'adoption, finalement, quand on regarde, ça se fait quand même souvent dans un climat de souffrance. Même s'il y a une joie au final.
Oui, d'avoir l'enfant quand l'enfant arrive, lorsque ça se réalise.
Voilà.
Mais ça a été... Donc cette souffrance, elle pèse quelque part.
Elle est là.
Elle est là.
Et c'est quelque chose qui reste dans le parcours. Ce qui est important, c'est que les parents adoptifs réalisent d'abord que c'est leur désir d'enfant et leur manque qui les a poussés à adopter et qui ne sont pas les sauveurs de l'enfant.
Ah oui, d'accord. Il peut y avoir ce sentiment.
Parce que quand
on sauve l'enfant
d'un orphelinat, d'une situation dramatique, ce qui les a poussés, c'est d'abord... leur manque et leur désir
donc,
d'enfant.
Il faut bien clarifier ça. Oui.
Dans leur esprit, oui. C'est important parce que qu'ils ne transmettent pas à l'enfant qu'ils l'ont sauvé.
Ah oui.
S'ils ont l'enfant, c'est parce qu'eux, on avait le désir et le besoin. Ils ne sont pas des sauveurs. Et ça, c'est important qu'ils en aient conscience. Et qu'ils accueillent aussi tous les moments où ils ont envie de laisser tomber. Si parfois, après, plus tard, ils se demandent s'ils ont bien fait face aux difficultés. Il y en a même qui peuvent regretter, parfois, quand il y a vraiment des difficultés importantes. D'accueillir ces moments-là, ça fait aussi partie, en quelque sorte, de l'adoption. Voilà, et donc qu'ils n'aient pas l'impression, en tout cas qu'ils ne transmettent pas à l'enfant qu'ils ont fait une BA, une bonne action en l'adoptant.
Alors là, c'est par exemple, on parle là d'une situation la plus souvent courante où les parents ne peuvent pas avoir d'enfants, mais oui. Il y a aussi des familles qui ont déjà des enfants et qui adoptent.
Alors là, c'est différent. D'ailleurs, souvent, ça se passe mieux. Enfin, il y a moins de difficultés.
Oui, et pourquoi?
Je pense aux familles qui ont des enfants et qui adoptent, parfois des enfants handicapés, par exemple, pour pouvoir lui permettre d'accéder à des soins ou pour s'occuper de lui.
La motivation, elle est différente. Hein?
Oui, parce que c'est pas un enfant qui vient remplacer un manque. Ils sont pas motivés en quelque sorte par le manque, mais par un désir de venir en aide.
Mmh. Hein? Oui, là c'est.
Voilà, ouais. leur véritable motivation, c'est d'aider un enfant, puisqu'ils en ont déjà. Donc,
oui. C'est pas le manque.
Voilà, il n'y a pas la notion de manque et de désir d'enfant qu'il peut y avoir quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfant.
Mais là, c'est vraiment de venir en aide. Donc, voilà. Il y a quelque chose de peut-être plus altruiste ou non?
Alors, plus, en tout cas, qu'il se
gratuit,
vit pas.
Gratuit, je sais pas.
Peut-être plus gratuit.
Je sais pas comment.
Plus gratuit, mais en même temps, je crois que on peut pas dire que les parents qui adoptent, ils font. Il y a aussi de la générosité
bien
dedans.
Bien sûr.
Il y a les deux.
Bien sûr.
Mais ils n'ont pas vécu le manque, ils n'ont pas vécu la souffrance des parents. Et donc
il y a un climat moins grand de souffrance.
Il y a un climat moins grand de souffrance.
Pour accueillir l'enfant. Et...
Voilà, et puis c'est vraiment fait uniquement pour venir en aide à l'enfant.
Un grand merci Pascal Parinet. Donc ce soir nous parlons de l'enfant adopté et son environnement. Pour nous rejoindre 01 56 56 44 00, nous écoutons Angélique Kidjo, Les enfants perdus.
Radio Notre-Dame.
Ils sont toujours en arrière. Quand le vent nous souffle dans le dos, ils sont là quand même. Ils ont les yeux vers la terre quand les autres regardent tout en haut. Ils nous voient quand même. Ils n'ont pas les mots faciles. Tout autour, on en dit un peu trop.
Ils sont là quand même. 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 Ils sont là quand
Angélique Kidjo, les enfants perdus. Ce soir, nous parlons, eh bien, des enfants trouvés, on peut dire, des enfants que adoptés, que donc des enfants, oui, perdus, qui sont adoptés par des parents généralement en manque, enfin, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Hein. Mais nous évoquions aussi un autre cas de figure différent, c'est-à-dire le cas de de parents qui ont déjà des enfants, mais qui adoptent un autre, un enfant, et souvent ça peut être un enfant handicapé aussi.
Voilà, et on disait que la problématique est un peu différente, oui. Puisque ce n'est pas le manque et le désir d'enfant qui oui. sont à la source de l'adoption, mais le désir de venir en aide. Cela dit, même si ça se passe mieux pour les parents, ça peut poser des problèmes dans la fratrie, parce que les frères et sœurs ne sont pas obligés d'adhérer au projet des parents. En général, les parents le vivent bien, parce que
C'est leur désir, finalement, quand même, d'adoption.
C'est leur projet. Par contre, la fratrie, elle n'est pas obligée d'adhérer, et parfois, ça peut poser grandes difficultés pour les frères et sœurs. Pas toujours, mais ça peut arriver.
Parce que c'est pas le projet. Eux subissent quelque part.
Oui. Alors après, il peut y avoir un dialogue avant. Oui, c'est ça, pour préparer. Pour en parler avec eux.
Je pense que quand même, ça doit se faire, ce dialogue avec les enfants.
Voilà, il faut espérer que ça se fasse. Ça se fait. Mais en même temps, les enfants mesurent pas toujours, en fonction de leur âge, quels vont être les enjeux.
Forcément, on ne peut pas prévoir, anticiper.
Et quand c'est un enfant, alors le handicap, c'est encore particulier, mais voilà, par exemple, si c'est un enfant adopté non handicapé, mais qui a des difficultés après, les enfants vont subir aussi ces difficultés, et ça peut leur poser des problèmes.
On voit déjà dans une famille ou d'une même famille, quand il y a un enfant qui a une difficulté, ça rejaillit forcément sur l'ensemble.
Ça rejaillit forcément sur les autres.
Oui. Alors nous allons écouter tout de suite Albert qui est en ligne. Albert, bonsoir.
Oh, bonsoir Chantal.
Bonsoir Albert.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur psychothérapeute.
Bonsoir.
J'ai une question sur l'amour.
Oui.
Quel est l'amour le plus fort ? L'amour maternel ou l'amour platonique ? L'amour platonique ou bien l'amour de Cupidon?
Alors, j'ai envie de vous dire que toutes les mères répondraient que c'est l'amour maternel le plus fort. Mais en même temps, alors l'amour de Cupidon, c'est l'amour quand on est amoureux, quoi.
Ouais. Hein? Et l'amour platonique?
Attendez, d'abord...
L'amour de Cupidon, de toute façon, il va reproduire... l'amour qu'a vécu l'enfant pour la mère, parce que la relation mère-enfant, c'est le premier modèle d'amour. Donc l'amour amoureux, en quelque sorte, va reproduire, va être calqué, en quelque sorte, sur ce premier amour. Et puis l'amour platonique, tout dépend ce que vous appelez l'amour platonique.
Spirituel.
Alors...
Spirituel.
Voilà, c'est encore autre chose. Soit c'est de l'amitié, soit c'est de l'amitié. Mais je crois que on peut pas comparer. D'abord, c'est chaque personne qui, à l'intérieur d'elle-même, sent comment elle aime. Et du coup, on peut pas dire l'amour d'une mère.
Mais ça dépend de l'âge aussi.
Voilà, ça dépend de l'âge, ça dépend de
l'essence qu'a l'amour.
De chaque individu, on n'a pas tous la même capacité, la même intensité d'aimer. Donc chaque individu aimera à sa façon sa mère, son épouse ou son conjoint, et puis des amis, voilà. Voilà, donc il n'y a pas de réponse, sauf que les mères diront que l'amour le plus fort, c'est l'amour d'une mère.
Voilà, Albert.
Monsieur le psychologue, un psychologue disait la cigarette et la confession sans absolution. Que pensez-vous?
Ben, je pense que c'est différent.
La psychanalyse et la confession.
Voilà, c'est différent. La psychanalyse, ça vise à explorer son inconscient, à oui. regarder comment on fonctionne de façon à aller mieux. C'est, l'objectif, c'est en général, hein, d'abord de résoudre des difficultés, et ça, à partir d'une prise de conscience des processus inconscients. La confession, ça n'a rien à voir. C'est recevoir le pardon de Dieu pour des fautes qu'on a fait.
Hein. Oui, mais trop de psychologie tue le psychologue ou non?
Non.
Non.
Tu quoi? Tu
trop de psychologie tue le psychologue.
Le psychologue, c'est le, vous êtes toujours en vie, Pascal Parinet.
Non, les psychologues
tiennent bon.
Tiennent bon, restent en vie, et puis voient eux-mêmes des confrères pour parler de leur travail.
Vous pensez beaucoup pour être psychologue.
Voilà, Albert, vous avez...
Merci beaucoup, Chantal. Bonsoir, monsieur.
Bonne soirée.
Merci à vous, Albert.
Merci, au revoir.
Bonsoir.
Voilà, je crois qu'il y avait une question.
Eh ben oui, il y a une question, une autre question. Alors, je la pose pour l'instant. Ça doit être un auditeur, je pense. Il souhaite pas, donc il souhaite pas que ça passe, mais il pose la question, que se passe-t-il quand c'est le père qui manque?
Alors, c'est une problématique différente. La perte, alors par séparation de la mère, on est vraiment dans des problématiques archaïques du petit enfant, du bébé, en général, hein, pas oui. toujours, mais en général. Et en tout cas, on est rattaché à des liens très archaïques, même quand ça arrive après. Là, on est vraiment dans une problématique spécifique. La perte du père ou l'absence du père, ça va donner d'autres difficultés. Hein. Donc il peut y avoir des difficultés aussi, mais elles seront différentes. Ça sera plus l'intégration de la loi, des problématiques oedipiennes. Mais ce sont des problématiques qui arrivent chronologiquement plus tard.
Plus tard, oui, ouais. C'est ça, puisque au départ, le petit enfant, c'est cette fusion avec la mère. Hein.
Oui, voilà.
Et voilà, donc c'est un peu différent là.
Voilà, ce sont des difficultés différentes qui se présenteront en tout cas.
Alors nous venons de regarder l'adoption par les parents, mais alors on disait bien sûr que l'enfant ne choisit pas ni d'être adopté d'une part, ni ses parents adoptifs, que ça lui est imposé. Donc ça, on peut peut-être évoquer du côté de l'enfant.
Voilà, ce qui veut dire qu'il doit à son tour pouvoir adopter ses parents.
Ah oui.
Hein? Si les parents l'adoptent, mais l'enfant, il doit avoir cette possibilité d'adopter aussi lui-même les parents. Alors, pour ça, il y a un certain nombre de conditions. D'abord,
qu'est-ce qui va favoriser cette adoption
Côté de l'enfant? Que les parents reconnaissent que leur enfant n'est pas tout à fait leur enfant. Alors c'est difficile de dire ça à des personnes qui ont adopté et qui aiment leur enfant, le considèrent comme leur enfant.
Oui.
Mais en même temps, c'est la réalité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le problème se pose plus tellement parce que la grande majorité des parents adoptifs, en tout cas, ils le disent à leur enfant dès le plus jeune âge qu'ils l'ont adopté, même au bébé. On dit au bébé qu'on l'a adopté.
Même s'il ne comprend pas.
Mais les bébés comprennent à leur façon.
Oui, à leur façon. Et ça, est-ce que c'est bien, ça aide de le dire comme ça à un bébé?
Oui, moi je pense qu'il faut le dire. Alors il ne faut pas harceler les enfants à sans arrêt leur dire « je t'ai adopté ». Voilà.
Non, mais qu'ils sachent.
C'est bien de le dire au bébé, c'est bien de le dire aux enfants quand ils parlent de leur naissance. Parce que les enfants, à un moment ou à un autre, ils vont parler de leur naissance, de comment ça s'est passé. Voilà, comment c'était dans le ventre de la maman, tout ça, quand ils voient des femmes enceintes.
Voilà.
Donc tout ça,
ils posent des questions.
Et toutes ces, ben voilà, c'est quand ils posent des questions, c'est faut en parler avec eux. Donc c'est bien de le dire, et puis en fonction de l'âge de l'enfant, d'adapter le discours à la compréhension de l'enfant, mais en même temps de dire les choses vraies, le plus simplement possible. Et finalement, plus l'enfant l'intègre tôt, moi, ça va lui poser de problèmes. Autant avant, quand des enfants découvraient ça, arrivés à l'âge adulte, par exemple, c'était souvent dramatique. Autant si l'enfant, dès qu'il est tout petit, l'intègre, eh bien, c'est quelque chose de normal pour lui.
Voilà, donc là, quand il s'est intégré, c'est pour ça que même le bébé, c'est aussi bien de le dire tout petit, comme ça il intègre.
Voilà.
Alors, lorsqu'il y a, là, bon, on n'en a pas encore parlé, mais lorsqu'il y a en plus une différence de culture, parce que souvent, on adopte des enfants d'autres...
D'autres cultures, oui. Parfois d'autres couleurs de peau aussi.
Oui, oui.
Ça se complique un peu. Et là, il est important que les parents adoptifs connaissent ou apprennent à connaître la culture d'origine de l'enfant qu'ils adoptent. Ce qui les aidera surtout à comprendre l'enfant.
Mais oui, les réactions.
Voilà, les réactions. Et puis, d'une certaine façon aussi, l'enfant, il est déjà privé de ses parents biologiques, de son environnement habituel, puisque quand on l'adopte, on l'emmène chez soi. Donc, c'est important qu'il ne soit pas non plus privé ou amputé de sa culture, et du coup que ses parents la connaissent.
Et alors cette culture, elle comprend quoi?
Ça comprend l'histoire de son pays, ça comprend les lieux où vivait l'enfant, ça comprend sa religion aussi, sa langue maternelle, bien sûr, c'est quelque chose d'important, la langue maternelle.
Oui.
Et puis même la cuisine, alors ça dépend de l'âge de l'adoption, mais la cuisine de son pays, si l'enfant a vécu déjà un certain temps qu'il a adopté un peu plus tard, il a mangé de la cuisine de son pays, donc ça comprend tout ça. Et donc c'est important de permettre à l'enfant aussi de conserver sa langue d'origine. Parce que c'est un lien très fort avec
la langue. Oui, bien sûr.
Et de pouvoir l'entendre et de pouvoir continuer à l'entendre, même l'apprendre après, alors à l'école, dans une association, ou à travers des chansons.
Oui.
De pouvoir conserver quelque chose de sa langue d'origine. Voilà, et quand les parents, finalement, connaissent peu de choses et sur les parents biologiques et sur la culture du pays de l'enfant, eh bien, ça va faire un manque entre eux et l'enfant. Hein. Il y aura un manque, un blanc, et ils auront du mal à se comprendre, en tout cas sur toute cette partie-là.
Un grand merci, Pascal Parinet. Voilà, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre. On se retrouve tout de suite après 22h.
Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, le cardinal André 23 analyse les événements qui font l'actualité. L'entretien du cardinal, c'est le samedi à 8h45 et le dimanche à 18h15 sur Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi, c'est du lundi au vendredi à 6h33 et 18h25 sur Radio Notre-Dame.
Pour écouter en direct, réécouter et podcaster vos chroniques et vos émissions préférées, rendez-vous sur notre site internet. En un clic, découvrez aussi nos web radios, musique sacrée, foi et raison. Radio Notre-Dame, c'est partout en France, 24h sur 24. Toute l'équipe de Radio Notre-Dame vous donne rendez-vous sur le www.radionotredame.com.
Thank you.
Suite dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, nous parlons ce soir de l'adoption, l'enfant adopté et son environnement. Alors justement, en tant qu'environnement, vous nous disiez, et particulièrement lorsque la culture est différente, que c'est important, Pascal Parinet, de comprendre l'histoire du pays, voilà.
La culture,
les lieux où il a vécu, sa religion, sa langue maternelle, ou même la cuisine de son pays. Alors on va y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais peut-être qu'on parle, puisqu'on arrive à l'été, est-ce que vous aurez des stages cet été et sur quoi, et à quel endroit ça se passe?
Voilà, nos stages se passent rue de Rivoli à Paris. On a un premier stage de confiance en soi du 1er au 3 juillet. Donc, où on fait un travail sur la confiance en soi et l'estime de soi. Un deuxième stage sur l'argent qui s'appelle la voie de l'abondance. Quel lien il y a entre notre rapport à l'argent et notre rapport à la vie. Et on regarde à travers notre rapport à l'argent... si on en manque, si on en a, si on le dilapide, si on le retient, tout notre rapport à l'argent, on regarde en même temps notre rapport à la vie de façon à mieux gérer l'argent, mais aussi mieux gérer notre vie, et surtout à libérer les forces de vie. Et donc ça, c'est du 8 au 10 juillet.
Oui.
Il y a un stage sur l'image de soi les 15 et 16 juillet, donc où on fait un travail sur les différentes images de soi, celles que nous renvoient les autres, celles qu'on aimerait avoir, et un stage sur se libérer de son histoire familiale du 22 au 24 juillet. Voilà, pratiquement un stage chaque semaine en juillet.
Alors ça, voilà, il y en a un peu pour différentes situations. Pour joindre,
alors,
le téléphone peut-être ou un mail.
Le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60. 06 60 15 79 60. Le mail contact psychrétien.com. contact@psychrétien.com.
Voilà, donc tous les renseignements seront au standard si vous n'avez pas noté. Alors, Marie, on n'arrive pas à vous joindre, je ne sais pas, le numéro est mal noté. Alors, je ne sais pas si vous voulez nous rappeler ou quoi. En tout cas, je peux lire la question de Marie, mais c'est difficile peut-être sans le dialogue de pouvoir répondre. Une personne à qui l'on a dit, alors qu'elle avait ses parents, tu as failli être adoptée.
Oui, alors, du coup, ça crée un doute dans l'esprit de l'enfant sur l'amour des parents. Finalement, c'est assez fréquent, ça, dans ce sens-là, où des grands frères ou grandes sœurs qui disent à celui qui est plus jeune, tu as été adopté. Quand il y a des rivalités entre frères et sœurs, l'aîné qui dit au plus petit parce qu'il n'en veut pas.
C'est une façon
T'es pas mon frère, t'as été adopté, ou t'es pas ma sœur, t'as été adopté. C'est une façon de l'éjecter. Mais du coup, et puis de dire à un enfant, t'as failli être adopté, derrière, ça sous-entend, tes parents voulaient pas de toi, ou tes parents t'aimaient pas. Donc ça va créer des difficultés à l'enfant, ça c'est évident. Mais je crois que c'est important, alors plus tard, quand il peut, d'en parler avec ses parents.
Alors Béatrice n'a pas laissé de téléphone, mais elle dit un bébé alors qui est opéré dès la naissance sans anesthésie. Donc, peut ressentir un traumatisme, ça je veux bien le croire, mais aussi... qui a eu des personnes différentes pour s'occuper de lui, peut ressentir un syndrome d'abandon et en même temps un attachement très très fort à sa mère avec la peur de la perdre.
Oui, alors ben ça existe plus aujourd'hui, hein, mais c'est pas si vieux que ça, où des bébés étaient
opérés
sans anesthésie. Oui, alors je sais plus jusque quelle année ça a duré.
Mais c'est barbare, enfin, parce que un bébé c'est un être humain.
Oui, mais bah ben, vous savez. L'humanité n'a pas toujours été aussi attentive. Hein. voilà.
Donc, là, on peut le dire, oui.
Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, c'est sûrement une personne qui est quand même très âgée. Ou alors, peut-être, quand il arrive qu'il n'y ait pas des moyens et qu'il faille opérer d'urgence, ou dans certains pays.
Oui.
Alors ça, c'est sûr que ça crée un traumatisme, hein, parce que l'enfant va garder ça dans son corps, dans sa mémoire corporelle, et voilà, donc c'est un traumatisme. Et puis, c'est aussi un traumatisme d'abandon, ce que disait la personne, parce qu'il s'est trouvé dans une situation extrême, finalement, livré tout seul à de la souffrance. Hein. Et donc, voilà, oui, c'est un traumatisme important, mais on est dans un autre registre et d'autres problématiques.
Alors, donc là, on revient à l'adoption. Et c'est vrai que les parents aussi se posent souvent la question de ce qu'ils n'ont pas fait, hein, devant une sorte de culpabilité aussi. Enfin, ils se posent cette question face à l'enfant adopté.
Oui, ça arrive souvent. Justement, souvent, c'est à cause de ce manque de connaissances de la culture, de la religion, de la langue. Voilà, ça va créer un manque, puisque finalement, l'origine, c'est bien sûr les parents. Mais l'origine, c'est aussi le lieu où on est, c'est la culture dans laquelle on est, c'est la religion de nos parents aussi. Tout ça, ça constitue notre origine.
Il faut donc que l'enfant puisse reconstituer le plus possible.
Voilà. Qu'il puisse... alors, reconstituer, il l'a.
Oui.
Il l'a, même tout petit, il l'a.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est surprenant que des très jeunes enfants font des rêves des lieux de leur naissance, par exemple, où ont des souvenirs. Alors, c'est plus des images ou certaines peurs, par exemple, ou en tout cas des souvenirs qui remontent en lien avec le lieu de leur naissance. Pour des enfants qui ont été adoptés à 1 an, 2 ans, par exemple.
Oui.
Donc, ils ont gardé en eux tous ces souvenirs-là. Donc, leur culture, ils l'ont. C'est plus de leur préserver, de préserver une place à cette culture dans leur esprit.
Voilà. Et donc, c'est important pour l'enfant donc de pouvoir se situer dans son histoire.
Oui, c'est important parce que c'est son origine, il a besoin de savoir, sinon il y a un blanc.
Oui, c'est ça.
Il y a un blanc et ce blanc, c'est un vide et ça accentue encore le traumatisme. Mmh. On a tous besoin de connaître notre origine. C'est d'ailleurs... une ligne un peu de démarcation entre les psychoses et les névroses. Dans la psychose, il y a un déni des origines. Il y a un fantasme d'auto-engendrement, en quelque sorte.
Ah oui.
Hein? Dans la névrose, on sait que notre origine vient de nos parents. On sait qu'on a des... Voilà. C'est important pour l'enfant qui puisse conserver ça.
Oui, parce qu'autrement, il peut faire une psychose plus tard.
Alors,
à cause d'un manque de...
Voilà, mais plus lié au traumatisme et aux autres traumatismes qui l'auraient tellement blessé. où le traumatisme serait important et à un certain âge, avant cette ligne de démarcation d'ailleurs.
Alors l'enfant va aussi poser des questions, comment c'était ma naissance, je ne sais pas, non, c'est...
Voilà, oui,
peut-être aussi.
Tous les enfants posent des questions à leurs parents. Comment j'étais dans ton ventre, j'étais dans ton ventre, comment c'était ma naissance, ta maman et ton papa, c'est qui? Alors, il apprend que c'est mamie et papy.
Oui, oui. Il fait le lien.
Il fait le lien de...
un peu tout.
Voilà, de son origine, des générations qui l'ont précédé. Mm-hmm. Et il se construit à travers ça, toutes ses racines.
Oui,
Et tout cela permet à l'enfant de s'inscrire dans une histoire qui est transgénérationnelle, où il y a les différentes générations. Mmh. Et ça, c'est important.
Donc vous disiez que des images, d'avant l'adoption peuvent ressurgir chez les enfants,
dans
les rêves, par exemple.
Dans les rêves nocturnes, ils peuvent retrouver, alors souvent ce sont des images de villages, de maisons, de type de paysage, et puis dans l'imaginaire aussi, et ça très tôt, je disais, même des enfants adoptés à 1 ou 2 ans, et même des tout petits bébés, finalement, ont cette conscience qu'ils ont été adoptés.
Les
tout petits bébés ont la conscience, il y a quelque part, il y a une empreinte mnésique en eux leur mère, déjà, in utero, ils sont en contact avec leur mère par le corps, même s'ils n'ont pas forcément conscience de ce que c'est, de ce qui se passe. Il y a une mémoire mnésique de ce contact de la mère in utero. Et tout ça, on le garde en nous. Et l'enfant adopté le garde aussi. Mmh. Les premiers instants de la vie avec la mère, tout ça, il le garde dans sa mémoire.
Oui, bien sûr. Alors, nous reviendrons sur cette question des origines et des liens transgénérationnels. Mais lorsque l'enfant est petit, qu'est-ce qui est important de dire à l'enfant?
Alors, d'abord, ce qui est important, c'est de ne pas diaboliser, mais de ne pas idéaliser non plus, ni les parents biologiques, ni le pays où ils vivaient. On a insisté là sur l'importance que l'enfant connaisse son histoire, alors bien sûr de façon adaptée avec son âge. C'est important que les parents adoptifs ne critiquent pas les parents. On l'a dit tout à l'heure, les parents biologiques. C'est important qu'ils disent pas que son pays d'origine c'est pas un bon pays. Pour la simple raison que c'est quelque part lui retirer ses racines.
Évidemment, mais c'est vraiment plus que maladroit.
C'est aussi important de ne pas idéaliser à l'extrême non plus, parce que si c'est le plus beau pays du monde, pourquoi ils ont été le chercher et qu'ils ne l'ont pas laissé dans le plus beau pays du monde?
Donc, il faut
quelque chose de mesuré, il faut parler de où l'enfant vivait, sa ville, son village.
Qu'il puisse avoir des repères.
Pour qu'il ait des repères qui collent à peu près à la réalité. Et puis, ils peuvent aussi expliquer comment ils ont fait pour l'adopter, leur démarche, le voyage, comment ça s'est passé. Pendant le voyage, leur retour en France, d'expliquer à l'enfant tout ça pour que ça crée vraiment le lien de son histoire.
Oui. Plus on lui parle de tout cela, plus il va sentir des liens.
Voilà, c'est important qu'il sache, qui connaissent son histoire. Après, faut pas, je le disais, faut pas lui en parler tous les jours.
Oui, évidemment.
Faut pas le harceler avec ça.
Mais qu'il sache.
Mais
quoi.
Voilà, qu'il sache. Et puis aussi, tout ce qui est non dit, finalement, va empêcher l'enfant de se faire une représentation. Ça va l'empêcher de penser sur son origine, sur son pays, et donc d'élaborer son histoire et son origine. Et du coup, s'il y a trop de non-dits, ben, ça fait l'équivalent des secrets de famille. Donc c'est important.
Donc ça pose problème après à l'enfant. Donc c'est important de pouvoir parler,
répondre aux questions de l'enfant. Je crois que les enfants petits posent suffisamment de questions pour que les laisser questionner, accueillir leurs questions et en parler.
Mais
avec
si l'enfant ne pose pas de questions, alors, faut-il devancer?
En tout cas, il faut le dire quand on l'adopte, même au bébé, hein, on a dit. Mmh. Et puis après, s'il est tout petit, de toute façon, il posera des questions. Y a l'âge où les enfants se posent des questions sur la naissance, sur comment on fait les bébés, sur tout ça.
Oui, bien sûr, oui.
Donc c'est le moment d'en parler.
Voilà.
Et puis après, il reposera des questions.
Mmh. Et alors, par rapport à la souffrance d'abandon?
Alors, il y a des psychanalystes, là, je suis en train de penser à Olivier Marc et son épouse. Ils disent que l'enfant abandonné, en fait, il se sent amputé. Non seulement d'une partie de son psychisme, mais même d'une partie de son corps. Alors, pour ça, il faut situer le bébé avec sa mère. Pour lui, la mère, c'est son prolongement. Il n'y a pas séparation dans la fusion. Et donc, la mère, c'est une partie de son corps. Et avec la perte de la mère, c'est comme s'il perdait une partie de son corps. Et du coup, il va vraiment le vivre, en tout cas, comme une amputation. Et donc, pour ça, c'est important de reprendre ce que Winnicott appelait le holding, c'est-à-dire tout le maternage, tous les soins qu'une mère donne à un bébé. Faut le reprendre avec les enfants adoptés, le holding, le handing aussi, la façon de le porter.
Pour qu'ils sentent
pour qu'ils retrouvent. Qui retrouve tout son corps, tout ce contact qu'il a eu avec la mère. En fait, réparer le contact qu'il a eu avec la mère qui a été perdue.
Donc une réparation qui peut se faire si on a ce maternage et ce portage.
Surtout le maternage.
Donc
d'entourer l'enfant physiquement. De faire des câlins, mais en l'entourant vraiment physiquement.
Dans les bras, vraiment, contre soi.
Contre soi, oui. Et du coup, ça restaure aussi psychiquement. Et donc, c'est de réparer tous les manques de contact physique qu'il y a eu pour que l'enfant puisse sentir vraiment ce corps à corps avec sa mère. Et ça, pour un enfant adopté, on peut le faire assez longtemps, jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à la préadolescence, quoi, à peu près.
D'accord.
Pour vraiment permettre la réparation du traumatisme de la séparation.
Mmh. Et si c'est bien vécu, eh bien... L'enfant peut être libéré de ce traumatisme, finalement, de l'adoption, enfin que l'adoption a pu...
Voilà, en tout cas, ça va en réparer une partie. Ça ne va pas tout effacer, mais en tout cas, ça va réparer une bonne partie.
Merci Pascal Parinet. Donc, je rappelle le téléphone 01 56 56 44 00. On se retrouve dans quelques instants.
Lumière de l'orthodoxie.
Bonjour, c'est Victor Loupan. Retrouvez-moi chaque semaine pour Lumière de l'orthodoxie, une émission consacrée à la spiritualité et à l'actualité orthodoxe.
Lumière de l'orthodoxie avec Victor Loupan,
tous les dimanches à 20h sur Radio Notre-Dame.
Actualité cinéma, sortie de la semaine, tous les samedis à 10h03, retrouvez les critiques de Bernard Medioni dans Écran éclair.
Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de Croire.com. Pourquoi y a-t-il tant de femmes dans l'Église et aucune pour célébrer l'Eucharistie? Le pape est-il vraiment infaillible? Le Dieu de l'Évangile est-il celui de l'Ancien Testament? À toutes ces questions, et à bien d'autres encore, je vous propose de répondre chaque semaine en compagnie d'un invité. Soyez donc au rendez-vous pour interroger l'Église et pour savoir ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas.
1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les mercredis à 20h30 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, je suis Xavier Acca, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'École de la prière pour approfondir l'art de la prière.
À l'École de la prière avec Xavier Acca et le mensuel Prier, tous les mercredis à 20h45 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leur famille et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Nous parlons ce soir de l'adoption, l'enfant adopté et son environnement. Donc pour nous rejoindre, 01 56 56 44 00. On écoute Marie-Pierre tout de suite. Marie-Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors je suis la maman d'un garçon que j'ai adopté à presque 2 ans avec mon mari. C'est un enfant qui est originaire du Guatemala. Et j'ai une question en ce qui concerne le prénom d'origine et le prénom que nous, les parents adoptifs, on a tendance à leur donner, oui, comme pour les remettre au monde, enfin un autre monde, quoi, on va dire. Hein.
Oui.
Donc mon fils avait son prénom d'origine qui était Byron Antonio, et j'ai eu l'idée saugrenue, je dois dire, puisqu'il s'est fait appeler Byron pendant 2 ans, ce qui au Guatemala faisait Byron. J'ai eu l'idée saugrenue d'inverser et de l'appeler Antoine Byron. Alors, au début, je me suis dit, je vais faire le prénom composé. Et puis, au fil du temps, c'est devenu Antoine.
Ouais.
Et comme c'est un enfant très bagarreur à l'école et qui est très, très hyperactif, enfin, en tout cas dans les bagarres, j'ai donc vu un psychologue à la demande de l'école. Et à la première réunion du psychologue, le psychologue me dit, ben, vous savez, la première chose qu'il m'a demandé, c'est, je voudrais reprendre mon prénom d'origine.
Tout à fait, oui.
Et il était en CE1, c'est-à-dire qu'il avait 7 ans et demi, il n'avait pas encore 8 ans. Alors bon, bien sûr, on a acquiescé à sa demande, mais bon, tout le monde a rayé Antoine, a marqué Byron au-dessus, ben voilà, bon, à l'école tout s'est bien passé, partout ça s'est bien passé. Moi je dois dire, j'ai pleuré dans mon coin, j'ai eu le sentiment de perdre quelque chose. Et ensuite je trouve que sa personnalité a changé. C'est-à-dire j'ai eu l'impression de l'avoir perdu,
ouais,
quelque part. C'est-à-dire qu'il a tout d'un coup... c'est devenu avec moi, alors qu'il était gentil, il me faisait des cadeaux, il m'offrait des fleurs. Toujours, il était prêt à m'offrir des cadeaux. Toujours, il cherchait à gagner mon amitié, ouais, mon amour. Et puis là, d'un coup, c'était, vous m'avez arraché. Voilà, oui, tout c'était le Guatemala et nous, on était les arracheurs, quoi.
Oui, si vous voulez, il y a deux choses. En changeant son prénom, alors j'ai, oui, beaucoup parlé de l'origine.
Espagnol, donc il parlait.
Voilà, quelque part, c'est lui retirer son origine.
Bien
surtout
sûr.
Deux ans, il l'a entendu, vous,
oui,
voyez.
Oui.
Bon, voilà.
Une erreur, je le reconnais. Hein.
Mais je crois que c'est important de le dire pour les parents qui adopteront. Voilà, c'est important de,
oui,
de respecter, de garder le prénom de l'enfant, parce que ça fait partie de son identité.
Voilà.
Alors, après qu'il ait changé, en fait, en changeant son prénom aussi, d'après ce que vous dites, votre enfant s'est suradapté.
Et oui.
C'est-à-dire qu'il a répondu à votre attente. Voilà, et en reprenant son prénom, il a retrouvé quelque part son identité, mais du coup, il vous rejette.
Complètement. Disons, je l'ai ressenti moi comme ça, mais il est devenu, enfin maintenant, il se trouve que mon mari est décédé l'année dernière, il a 15 ans maintenant, la perte du père, ça, c'est dur encore pour lui, de nouveau, ouais. Et il était déjà en conflit avec moi. Je trouve que je me retrouve avec un enfant... avec des difficultés relationnelles, donc il voit de nouveau ainsi là maintenant depuis quelque temps, parce qu'il est violent quoi. Ouais. Il est coléreux dès qu'on est en contradiction avec ce qu'il dit, il peut jeter un fauteuil à travers la pièce. Et...
Oui. Mais ça c'est les conséquences de l'abandon en fait.
C'est
hein.
ça. Mais il a été avec, il aurait été, parce que moi j'ai quand même un dossier, parce que c'est un enfant qui a été reconnu par le père et la mère de naissance, c'est-à-dire il avait un nom de famille, hein, pas seulement un prénom, ouais. mais il a été, et voilà. Et il aurait été, moi je ne dis pas abandonné, je lui dis toujours confié à l'adoption, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'essaie de ne pas faire celle-là. Je dis qu'il a été confié à l'adoption aux alentours de 17 mois, parce que ça correspond aux examens, du vaccin et autres qu'il aurait eu à l'orphelinat où il est resté finalement peu de temps. Donc je me dis, je pense qu'il a été aimé parce qu'il c'est un enfant qui est très irradiant, il est très, en même temps il a beaucoup de joie de vivre, enfin il a beaucoup de charisme, il a quelque chose de voilà. Mais
voilà, mais je crois que c'est bien qu'il fasse une thérapie.
Voilà. Mais...
À l'adolescence. L'adolescence, c'est une période où, justement, on va en parler, il y a tout le questionnement sur l'identité, sur qui suis-je.
C'est ça, voilà, à qui je ressemble, surtout. Hein.
Voilà, et toute cette thérapie, elle va lui permettre de trouver ses réponses et sans doute, alors en plus d'apaiser ses défenses, la violence c'est aussi une défense. Hein.
Une défense, mais de quoi ?
C'est une défense contre la perte. Nous quand on perd quelque chose, on se met en colère, mais lui c'est une perte plus importante qu'il a vécue. Et donc c'est une réaction naturelle, j'ai envie de dire, mais qui protège aussi contre la perte. Hein.
C'est-à-dire, c'est de rage qu'il a ou non ?
Ça le protège de la dépression liée à la perte. Hein.
D'accord.
Vous voyez ? Donc c'est à la fois c'est une protection, mais en même temps une protection qui est pas très adaptée ou qui est pas
qui durera bien pour nous.
Voilà, mais pour lui aussi sûrement.
Oui, sûrement, c'est une souffrance en même temps. Ouais.
Voilà, mais tout le travail de thérapie va lui permettre
de vivre ça.
De vivre ça, de l'apaiser, alors en tout cas de le réduire beaucoup, et comme ça un adolescent peut-être de le résoudre.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'EMDR
L'EMDR c'est plus post-traumatique.
C'est quand même un traumatisme justement qu'ils ont vécu.
Oui, mais je pense qu'il y a, c'est vraiment un travail, c'est une thérapie brève pour soigner un traumatisme ponctuel.
Par exemple, la mort de son père, la mort de mon mari, ça peut parce que je pense que ça, la perte de mon mari avec qui il s'entendait très très bien peut avoir fait rejaillir la douleur de
l'abandon.
Quoi.
Oui, tout à fait. Oui. Si vous voulez, le MDR, ça a été mis au point pour soigner les militaires, les militaires qui avaient du stress post-traumatique. Donc ça ramène le souvenir à la conscience et puis après le thérapeute le traite. Mais là je pense qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans le temps, dans la durée, et c'est vraiment un travail. en profondeur. Ça ne veut pas dire de... Il peut faire peut-être quelques séances de MDR, mais
ou d'hypnose, aussi, parce que je crois qu'il a essayé l'hypnose aussi.
Voilà, mais il faut vraiment qu'il fasse un travail en profondeur et peut-être même une analyse.
Voilà. Parce que ça peut prendre plusieurs mois, donc, du coup.
Oui. Et il vaut mieux que ça prenne du temps pour qu'il y ait le temps, pour qu'il puisse évacuer sa souffrance progressivement.
Oui.
D'accord. Voilà, Marie-Pierre.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, juste pour finir, est-ce que moi, je peux l'appeler Antoine Byron, ou il vaut mieux que je fasse une croix sur... si je puis dire. Aujourd'hui, c'est Saint-Antoine de Padoue, en plus. En
fait. Oui.
Je pense qu'il vaut mieux l'appeler par son prénom d'origine.
Hein. Bon, d'accord. Même si son caractère s'est devenu endurci à la suite de ça.
Oui, mais ça, c'est parce qu'il a rejeté sa suradaptation, en fait. Hein.
Sa suradaptation, d'enfant adopté, vous voulez dire.
Voilà. Hein. Toute sa gentillesse, tout ça,
oui,
c'était une suradaptation pour vous faire plaisir.
D'accord.
Pour correspondre à ce que,
vous
attendiez de lui, en quelque sorte.
Ça. Oui.
Et en retrouvant son prénom, ce qu'il voulait, c'était retrouver son identité.
Sa source, quoi.
Voilà. Et la souffrance, c'est autre chose. Enfin, la violence, c'est pas sa nature, la violence.
Hein.
C'est une défense.
D'accord.
Donc c'est bien que vous compreniez tout ça.
Oui, je vous remercie. C'est quelque chose que j'avais pas vu. Merci beaucoup.
Voilà, Marie-Pierre. Bonsoir.
Merci. Bonsoir.
Là, on voit tous les problèmes que cela pose. Alors, justement, comment se fait l'adaptation? Alors, des parents, parlons-en. Marie-Pierre nous donne l'occasion.
Voilà, alors, on disait que c'était important d'envelopper l'enfant de tendresse, d'affection corporelle même. Hein.
Oui.
Voilà, jusqu'à 8, 9 ans, quoi, à peu près. Mais en même temps, c'est pas toujours facile pour la mère, parce qu'elle peut ressentir de la gêne. Autant avec un bébé, c'est facile. Autant avec un enfant un peu grandissant, toutes les mères n'ont pas, en fonction de leur culture, de leur origine, n'ont pas
le contact physique.
Le contact physique facile.
Oui. Mais, surtout en Occident, peut-être.
Surtout en Occident, mais ça c'est important et du coup c'est la grande adaptation des parents et puis après de s'adapter aux réactions aussi de l'enfant qui peuvent parfois être violentes, rejetantes ou autres.
Un petit peu comme disait Marie-Pierre. Alors justement, quant à l'adaptation de l'enfant,
alors souvent on dit il faut de l'amour résout tout. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait.
Oui.
C'est pas parce qu'on aime un enfant que tout va bien se passer. Ce qu'il a besoin, l'enfant adopté, c'est d'être respecté dans son identité, et donc dans son histoire et dans son origine.
On voit là ce qu'a dit Marie-Pierre, Byron, oui.
Et donc ça, il a le droit de le connaître, il a le droit de le conserver. Et puis il a droit aussi d'avoir du temps pour s'adapter à ses nouveaux parents.
Oui.
Hein? Ça se fait pas, même si souvent l'enfant va essayer de s'adapter au plus vite pour être aimé et pas être abandonné.
Bah oui, c'est ça, oui, bien sûr.
Voilà.
Il peut avoir aussi des moments de régression, enfin.
Il peut avoir des moments de régression, surtout au moment de l'adoption, au moment où il est adopté. Mais ça, c'est une bonne chose. La régression, ça va participer, il va régresser en âge. Et donc, c'est ce qu'on dit sur le holding. Il aura besoin d'être à nouveau materné. C'est important de l'accepter et de le laisser régresser.
D'accord.
Et de reprendre, comme si c'était un
oui,
bébé.
Oui, reprendre les choses.
Et reprendre tout ça et de lui laisser le temps de refranchir les étapes qu'il n'a pas pu franchir à cause du traumatisme.
Mmh. Bien sûr. Donc il a besoin de temps pour s'adapter, quoi.
Voilà, pour s'adapter. Et il faut faire attention si l'enfant s'adapte trop vite.
Oui, parce que ça peut être pour faire plaisir et c'est pas forcément son... Oui. Et alors, on peut parler à l'adolescence aussi, du côté du jeune, comment ça... Alors, comment vit-il cela? Parce qu'on sait que l'adolescence, pour tous d'ailleurs, c'est difficile, voilà, pour tout enfant.
L'adolescent va revivre son enfance, hein, ça c'est vrai pour tous les enfants.
Donc c'est une période difficile,
alors,
souvent.
C'est une période difficile, mais là, qui va aussi dépendre des parents adoptifs. Parce que l'adolescent, il est à la recherche de son identité. Sa question principale, c'est « qui suis-je ? » Parce qu'il a beaucoup changé, et rapidement, et donc il faut qu'il se repositionne dans son identité. Et donc, l'enfant adopté...
C'est encore plus intense.
C'est encore plus intense, et il va vivre une crise d'identité. Et c'est souvent le moment où il veut retrouver son origine, savoir d'où il vient. Alors quand ça lui a été dit, c'est un peu plus facile. S'il a pu voir son pays aussi, retourner dans son pays, au moins il en sait quelque chose. Et sinon, souvent, il voudra soit rechercher sa mère biologique, et c'est pas toujours possible, soit retourner dans son pays au moment de l'adolescence. De façon à savoir qui il est.
Il cherche toujours, les racines.
Sa question, c'est qui suis-je, quelles sont mes racines. Et il risque de fantasmer, s'il ne peut pas retrouver sa mère, de la fantasmer soit comme une sainte.
Et l'idéaliser.
Voilà, l'idéaliser, soit comme une prostituée, c'est-à-dire si elle m'a abandonné, c'est forcément une mauvaise mère. Et du coup...
Oui, il va l'un ou l'autre, quoi.
Oui. Alors, et on voit comme ça, beaucoup d'adultes qui ont été adoptés dans l'enfance s'attacher à une religieuse, la considérer comme une sœur, à la Vierge Marie aussi.
Oui, ça doit être...
Porter une dévotion mariale, mais liée à l'adoption.
Oui, qui est la maman de substitution.
Qui devient la maman de substitution.
Et qui risque d'être pas vraiment une relation...
C'est une relation fantasmée avec la mère idéalisée. Donc il va créer en imagination aussi les lieux de son enfance. Il va imaginer le village ou la ville où vivaient ses parents, où lui il vivait. On a reparlé des rêves tout à l'heure aussi qui reviennent. Et le tout, c'est de pouvoir en parler avec lui, d'accepter tout ça, de l'aider à retourner sur les lieux, si c'est possible, de l'aider à revoir ses parents biologiques.
Ça doit être douloureux aussi, c'est difficile pour les parents.
Alors,
aussi.
Souvent, les parents ont peur qu'ils se disent, mais s'il retourne dans son pays ou s'il revoit sa mère, il ne reviendra pas. Non, souvent c'est le contraire. Ça lui permet d'adopter ses parents adoptifs et de revenir mieux que ce qu'il était dans sa recherche, dans sa crise d'identité.
Il se repositionne là.
Ça lui permet de se repositionner au niveau identitaire et du coup d'accepter l'adoption.
Et lorsqu'il y a une suradaptation alors chez l'enfant, comment ça se passe-t-il à l'adolescence ?
Alors, ça arrive que la rupture soit brutale. C'est un peu ce que disait...
Marie-Pierre tout à l'heure.
Marie-Pierre, alors c'est arrivé plus jeune, mais en tout cas, finalement l'enfant a besoin de couper le lien d'une façon assez abrupte pour retrouver sa propre identité, parce que en se suradaptant il a renoncé à une partie de lui-même et donc il a besoin de couper vraiment pour pouvoir se retrouver et ce n'est qu'une fois qu'il sera bien retrouvé qu'il pourra renouer le lien avec sa mère.
Donc il ne faut pas que la mère qu'elle le comprenne, ça, comme la Marie-Pierre.
Il faut le comprendre.
C'est pas dramatique, au contraire, c'est normal.
C'est une phase normale, qui est difficile pour les parents adoptifs, mais qu'est le moyen de l'enfant pour retrouver son identité
et son équilibre quelque part.
Et son équilibre.
Merci Pascal Parinet. Voilà, je rappelle, là on arrive presque à la fin de l'émission, on a encore quelques minutes. On va écouter tout de suite Marie-Myriam qui chante « L'oiseau et l'enfant ».
Radio Notre-Dame.
Magnifique chanson de Marie Myriam, hein, pleine de poésie, l'enfant et l'oiseau, l'oiseau et l'enfant plutôt. Ce soir, nous parlons d'adoption, l'enfant adopté et son environnement. Nous écoutons tout de suite Chantal qui est en ligne. Bonsoir Chantal.
Bonsoir Madame Chantal Bailly. Bonsoir Monsieur Parinet.
Bonsoir.
Ouais, je voulais vous poser une question là. L'Église est contre le mariage des homosexuels, a fortiori contre l'adoption par les homosexuels. Entre l'adoption par des homosexuels et l'adoption par des gens, un homme et une femme normaux. Où est la dichotomie? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est le même amour. Ce sont pas des pervers, ce sont pas des pédophiles. Alors où est la différence?
Si vous voulez, c'est pas à moi de répondre d'abord sur la position de l'Église. Ce qu'on peut dire, c'est que l'adoption, mais c'est vrai pour tous les enfants. Les enfants passent par des identifications successives. Ce que dit l'Église, c'est que un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour pouvoir s'identifier. Alors, en fonction des moments, aux deux, hein, il passe par l'identification à la mère, au père après. enfin, suivant si c'est un garçon ou une fille. Donc, l'enfant, il a besoin de pouvoir s'identifier aux parents des deux sexes. Voilà, c'est la difficulté, elle est là. Comment ça va se faire? Aujourd'hui, on sait pas trop finalement. Il y a des couples, par exemple, des homosexuels qui ont été mariés, qui ont eu des enfants, et puis après, qui sont en couple homosexuel, mais leur enfant, finalement, il avait un père et une mère. Il est venu d'un père et d'une mère, même si après, ce couple premier s'est séparé et qu'il s'est formé un couple homosexuel. Voilà, toute la question, c'est comment vont se faire les identifications dans le développement de l'enfant. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de recul pour en dire quelque chose. Et voilà, l'Église, dans sa prudence, signale qu'il peut y avoir un danger. Et puis, je crois que c'est aussi un choix de société. Hein. Y a les aspects psychologiques, c'est une chose, mais après, il y a un choix de société. Voilà, quelle société on veut. Alors, voilà, il y a eu un vote, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais c'est vraiment un choix de société.
Qu'est-ce que vous entendez par choix de société?
Parce que c'est légiférer une situation, et donc ça passe par des lois, et c'est bien quelque chose, la loi, c'est ce qui réglemente la vie en société. Et donc le mariage pour tous, c'est un choix ou pas, ou un refus, mais aujourd'hui la loi est passée, c'est un choix de société. Hein, qui voilà, c'est on a voté pour des personnes, et ces personnes ont voté une loi qui engage notre société dans une direction. Voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est chacun qui voit quelle société il veut.
Voilà, Chantal.
Mais attends, oui, encore un mot. Je pense que quand il y a beaucoup d'amour, quand il y a beaucoup d'amour dans un couple, qu'il soit hétéro ou homo, je crois que ça doit compenser le trou, beaucoup.
Alors, voyez,
beaucoup le manque. Pas le manque, mais en
vous voyez,
fait,
alors,
que,
attendez.
Les convenances que tout le monde. Que tout le monde fait, ce que tout le monde fait comme tout le monde, quoi.
Oui.
Parce que, oh, vous savez...
Attendez, laissez-moi répondre. Et là, on n'est pas dans un problème d'homosexualité ou pas d'homosexualité, puisque, je le disais, pour les enfants adoptés, donc par des couples hétérosexuels, voilà, souvent on dit quand il y a de l'amour, ça se passe bien, ça résout tout. Ben non.
Vous voulez dire ça, oui.
Ben non. Voilà, ce qu'est l'amour, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, alors, dans le cas de l'adoption, c'est essentiellement le respect de l'enfant, de son identité, de son origine, du droit à connaître son origine. Voilà. L'amour, ça ne résout pas toutes les difficultés. Hein. Donc, c'est vraiment une phrase qui, alors dans le cas de l'adoption, que ce soit par des couples hétérosexuels ou homosexuels, voilà, qui veut rien dire par rapport à la problématique qui se pose dans le cas de l'adoption, qui est une problématique de l'origine et de la construction de l'identité de l'enfant.
Voilà, Chantal. Voilà, matière à réflexion.
Un petit mot, parce que...
On arrive à la fin. Allez-y.
Encore un petit mot. Parce que vous pensez que, normalement, pour le complexe d'Œdipe, l'enfant ne peut pas faire un complexe d'Œdipe, enfin, comme soi-disant ils le font dans chez les enfants, les autres enfants, ne peut pas s'identifier en passant par la mère ou le père.
Là, si vous voulez, c'est plus compliqué que ça. C'est la capacité de la personne homosexuelle à s'identifier elle-même à une personne de l'autre sexe. C'est-à-dire, ça va être par exemple une des femmes homosexuelles, si c'est entre femmes, à s'identifier à un père, ou un homme à s'identifier à une mère. Parce que ça se passe à deux, hein. Pour que l'enfant puisse s'identifier, il faut que le parent soit lui-même et lui-même une identité sexuelle, qu'il y ait une identité sexuelle père et une identité sexuelle mère. Et donc la problématique pour les couples homosexuels, c'est qu'il faut qu'il y ait un des deux qui ait la capacité à s'identifier l'un à la mère et l'autre au père. Voilà. Donc c'est ça complique.
Voilà, Chantal. Merci.
Je voulais savoir ce que vous en pensez. Ben, je vous remercie.
Merci à vous. Merci. Bonsoir.
Au revoir.
Alors, il y a Josiane qui ne voulait pas passer à l'antenne. Elle n'a pas laissé son téléphone. Elle disait ça déclenche une tristesse en moi ce que dit Pascal Parinet, parce que le gouvernement avec la loi a ouvert la fabrique d'enfants avec deux pères sans mère ou deux mères sans père. Tout cela pour faire plaisir au désir des adultes, des sens des adultes. J'ai beaucoup de peine pour les enfants. Voilà, c'était sa remarque.
Voilà, mais on est dans une autre problématique avec l'adoption. On est vraiment dans la problématique des origines.
Des origines, ouais. On voit combien l'enfant, pour qu'il puisse s'identifier, a besoin de ces repères-là, de son origine,
pour se créer sa culture, identité. Il a besoin de connaître d'où il vient, quelle est son origine.
Alors, juste un petit mot à la fin, comme ça, parce que nous avons vu qu'il fallait restaurer le maternage, mais à part cela, Pascal Parinet.
Je crois que on a dit, l'enfant va beaucoup imaginer, et c'est important d'en faire quelque chose
de l'enfant,
de cet imaginaire. Plutôt que de le nier, c'est important d'en faire quelque chose. Alors ça, c'est plus le travail en thérapie, mais peut-être les parents peuvent le prendre en compte, déjà parler de son imaginaire en le respectant, hein. Corriger aussi par rapport à l'histoire, si l'enfant, si les parents savent des choses, ils peuvent corriger l'imaginaire de l'enfant. On peut aller plus loin, mais ça c'est plus le travail en thérapie, c'est par exemple de proposer à l'enfant de dessiner sa mère biologique pour y voir avec lui comment il aperçoit, ou sa famille d'origine, son lieu de naissance, tel qu'il les imagine, lui.
Oui, c'est important,
Mais après, de l'analyser en thérapie, d'en parler pour voir quelle est la réalité. Est-ce que son imaginaire est possible? Est-ce qu'il n'est pas possible? On peut lui proposer de faire une lettre à sa mère, par exemple.
Sa mère biologique,
De lui écrire, même d'imaginer qu'est-ce qu'elle lui répondrait, de créer une espèce de dialogue entre lui et sa mère d'origine. On peut faire aussi l'arbre généalogique et voir où l'enfant va se positionner, lui proposer de se positionner dans sa famille adoptive. Enfin, on voit que à partir de l'imaginaire de l'enfant, il y a beaucoup de travail qui peut être fait pour l'aider.
Voilà. Un grand merci, parce que ça nous donne beaucoup de pistes de réflexion, tout cela. Et on voit combien l'adoption, c'est important de travailler avec l'enfant.
De l'accompagner. Tout en lui permettant de garder son origine, sa culture.
Son identité, qu'il puisse construire son identité. Il y a Laurence, ça vient d'arriver. J'ai un couple d'amis qui ont adopté à 2 ans leur enfant à l'étranger et on lui a changé son prénom. Il n'est jamais retourné dans son pays d'origine et il s'est mis à voler très tôt ses parents. et probablement des amis, moi en l'occurrence. Mm. Je pense qu'on lui vole son identité, dit-elle.
Oui, alors c'est plutôt que c'est une façon de les agresser.
Ah oui.
Quand on vole quelqu'un, on l'agresse. Et c'est une façon d'agresser ses parents et de leur dire aussi que finalement, il a des parents biologiques. Quoi, hein.
Oui, oui.
Quand l'enfant adopté agresse ses parents, alors par le vol ou autre, oui, ou verbalement, c'est une façon de leur rappeler qu'ils sont ses parents adoptifs, oui, mais qu'il a aussi origine et des parents biologiques.
Un grand merci Pascal Parinet. Je rappelle le téléphone de Psychrétien, 06 60 15 79 60. Voilà, tous les renseignements sont au standard, si vous n'avez pas noté. Un grand merci. Merci à vous tous, merci également à Marie-Françoise et Daniel qui vous accueillent au standard ce soir, à Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit, nous serons en compagnie de Christophe Gury, responsable pastoral du collège lycée Notre-Dame-Providence à Enghien-les-Bains, dans le Val-d'Oise, de Karine Brahamcha, animatrice en pastoral de cet établissement, ainsi que des élèves de 4e d'Enghien-les-Bains et de l'aumônerie de Magny-en-Vexin. Ils nous feront revivre l'aventure du Frat 2013 à Jambeville, en Ile-de-France, qui s'est déroulée tout récemment au moment de la Pentecôte. Très très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie, et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.